Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Les femmes et les religions au Moyen-Orient. C'est un dossier plutôt délicat pour lequel il n'existe aucune réponse définitive et encore moins dogmatique. Avec Lisa Antebi-Yemini, chercheur au CNRS, auteur d'un livre remarqué sur les juifs d'Éthiopie, nous verrons comment les femmes ont récemment investi de nouvelles fonctions religieuses dans le cadre de certains courants juifs contemporains, notamment en Israël. Et avec Naïma Bourras, nous explorerons les différentes formes d'engagement féminin, voire féministe, dans l'Égypte post-soulèvement de 2011. Lisa Antebi-Yemini, bonjour.
Bonjour Éric Bataillon.
Chargée de recherche au CNRS, membre de l'Institut d'ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative à l'Université Aix-Marseille, dans le sud de la France. Avec vous, nous faisons le point sur la façon dont les femmes ont récemment investi de nouvelles fonctions religieuses dans le cadre de certains courants juifs et musulmans contemporains. Quelles sont principalement ces fonctions nouvellement investies ?
Alors effectivement, il y a eu des évolutions, dans certains cas aussi des régressions, parce que les avancées des femmes provoquent aussi chez certains un retrait. Par exemple, dans le judaïsme orthodoxe, il y a eu depuis quelques années une vraie révolution, comme l'appelle la sociologue Sonia Lipsick, qui étudie de près ces questions, avec des femmes, par exemple, donc juives orthodoxes, qui sont rabbins, mais ordonnés de façon privée, donc pas par un rabbinat officiel qui, pour l'instant, n'accepte pas du tout la fonction de rabbin pour des femmes orthodoxes, ou alors des fonctions para-rabbiniques qui, peut-être, font moins d'ombre à l'autorité masculine des rabbins. Donc, par exemple, des femmes conseillères en loi juive, en particulier sur des questions liées aux femmes, à la sexualité, etc. Et aussi, dans le monde musulman, on voit de plus en plus de femmes, alors soit dans des mosquées égalitaires, progressistes, surtout aux États-Unis, il y a tout un réseau de ces mosquées-là, des femmes imams, des femmes qui font la prière, mais aussi, par exemple, des choses beaucoup plus officielles, des femmes juges dans les tribunaux de la charia.
Dans quel pays, précisément ?
Par exemple, en Palestine, à Ramallah, il y a deux femmes qui siègent dans un tribunal de la charia.
Il y a aussi des prédicatrices, c'est le cas notamment, je crois, en Égypte, où tout à fait officiellement, l'université Al-Azhar tente de former quelques prédicatrices.
Voilà,
et qui l'ambition est forte, mais pour l'instant, il y en a peu, je crois.
Oui, et qui peuvent émettre des fatwas concernant les femmes. Au Maroc aussi, il y a un conseil de la fatwa où siègent aussi des femmes qui peuvent délibérer avec les hommes sur ces questions-là.
Mais dans le judaïsme, ça reste pour l'instant un peu plus clandestin.
Voilà. Alors, surtout dans le judaïsme orthodoxe, on peut pas imaginer aujourd'hui encore des femmes dans un tribunal rabbinique, par exemple, encore une fois orthodoxe, où siègent que des hommes. Et c'est quelque chose d'encore difficile à imaginer. Donc, justement, c'est intéressant de voir comment ces deux religions ont des évolutions parfois parallèles, mais avec des fonctions très différentes pour les femmes, pour le moment en tout cas.
Quelles sont principalement les réticences et aussi les acceptations qui accompagnent ces transformations ?
Alors les réticences viennent surtout des hommes rabbins. Je pense que c'est une crainte de voir leur autorité être déléguée à des femmes. Ce qui est intéressant, c'est par exemple aux États-Unis où la plupart des juifs sont libéraux, donc ne font pas partie de ces mouvements orthodoxes. On assiste au contraire à une féminisation des fonctions cléricales dans le judaïsme non orthodoxe et même à la féminisation des congrégations juives où on parle d'une fuite des hommes qui n'y trouveraient peut-être plus leur place.
Et cela, ça n'est pas le cas en Israël.
Alors en Israël, les juifs libéraux sont très très minoritaires pour toutes sortes de raisons culturelles. C'est un judaïsme qui a été importé avec les immigrantes, surtout anglo-saxonnes en Israël, mais la plupart des Israéliens ne fréquentent pas ces synagogues libérales.
Est-ce que ces réticences sont liées à des textes précis ou alors c'est simplement culturel ?
Non, je pense que c'est surtout une interprétation patriarcale des textes, puisqu'il n'est écrit nulle part que des femmes ne peuvent pas pratiquer soit comme rabbin, soit comme chef spirituel. Et même au niveau des prières, il y a toutes sortes d'arrangements pour que les femmes puissent effectivement lire certaines prières, lire dans la Torah par exemple. Alors il y a ce qu'on appelle des minyanes de femmes, donc des assemblées de femmes orthodoxes qui lisent entre elles la Torah, donc le texte sacré.
Et est-ce qu'il y a des conséquences pour ces femmes sur le plan personnel, le fait de s'investir dans l'organisation de la religion ? Les rabbines, par exemple, je ne sais pas si on dit rabbines, les rabbins femmes sont-ils poursuivis lorsqu'on sait qu'elles le sont ?
Non, ça ne va pas jusqu'à là. Il y a des petites avancées, par exemple, un rabbin d'une ville a pris pour la première fois comme assistante une femme dont le titre n'est pas rabbin, mais qui a toutes les fonctions d'un rabbin. Donc c'est encore une fois une femme orthodoxe, un rabbin très orthodoxe, mais qui n'a pas voulu, dans les termes, donner le nom de rabbin à cette femme qui, en fait... pratique comme un homme rabbin.
Et est-ce qu'il y a une redéfinition du rôle entre hommes et femmes dans ces deux religions, la religion juive et la religion musulmane ?
Alors avec ces évolutions, effectivement, il y a certaines choses qui changent un peu. Par exemple, des femmes peuvent maintenant consulter d'autres femmes pour des questions qui touchent par exemple à la sexualité ou à des choses très intimes pour lesquelles avant, elles devaient souvent s'adresser à un homme. Donc là, ça leur permet effectivement de se sentir plus à l'aise et puis d'interpréter d'une façon féministe ou féminine en tout cas des textes qui jusqu'à maintenant étaient toujours interprétés par les hommes.
Et est-ce que l'arrivée de femmes dans les structures de ces religions peut permettre une évolution de ces religions vers un peu plus de calme, je dirais ?
Je l'espère.
Est-ce qu'on le constate aujourd'hui, quand il y a des femmes rabbins ou des femmes imams, est-ce que les communautés qui suivent ces femmes sont plus apaisées ?
J'espère que oui, c'est un des résultats que nous allons voir. En tout cas, elles ont certainement une vision différente de la religion, ça c'est sûr. Mais bon, il y en a aussi qui sont parfois plus radicales que des hommes, ça dépend. J'ai parlé à des femmes, par exemple, qui m'ont dit au sujet de ces femmes dans les tribunaux de la charia, que dans les questions de divorce, elles préfèrent un homme juge qu'une femme qui parfois veut montrer qu'elle est plus rigoureuse ou en tout cas... parfois, je sais pas, plus instruite et décide en faveur de l'homme et pas de la femme. Donc c'est pas toujours parce que c'est une femme qu'elle va justement être plus favorable à une femme, par exemple, dans des questions de divorce.
Ce n'est pas une garantie, donc.
Voilà.
Alors, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Juive et musulmane, genre et religion en négociation ». Négociation, ça veut dire qu'en permanence, dans ces deux religions, et peut-être même aussi d'ailleurs dans d'autres, les femmes doivent négocier pour obtenir de nouveaux territoires, c'est cela ?
Oui, exactement. D'ailleurs, on peut aussi parler du christianisme, puisqu'il y a aussi tout un mouvement de femmes... qui ont eu aussi toutes sortes de problèmes en demandant ou en revendiquant des rôles rituels. Alors effectivement, c'est un combat constant, encore une fois, dans la religion juive orthodoxe et dans l'islam aujourd'hui, puisque, comme je l'ai dit, dans le judaïsme libéral, c'est déjà acquis depuis les années 70 avec les premières femmes rabbins et qui, encore une fois, aujourd'hui, continuent... de s'étendre et, comme je l'ai dit, féminise même ses fonctions cléricales où aujourd'hui il y a plus de femmes dans ces courants juifs libéraux que d'hommes.
Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, en tout cas au Moyen-Orient, cette évolution est encore très timide ?
Oui, c'est encore le début, mais je pense que c'est en bonne voie puisqu'il y a vraiment des avancées qui n'auraient pas pu exister il y a 10 ou 20 ans même.
Merci Lisa Antebi-Yemini. Je rappelle que vous êtes chercheur au CNRS, auteur du livre « Juive et musulmane, genre et religion en négociation ». C'est édité chez Cartala.
Merci.
Look at me, I'm a beautiful creature. I don't care about your modern time preacher. Welcome boys, too much noise, I will teach you. Pum, pum, pow. Prum, pum, pow. Hey, I think you forgot that I play.
Nous sommes en ligne avec Naïma Bourras, doctorante à l'Université du Havre, membre associé du CEDEJ, le Centre d'études et de documentation économique, juridique et sociale, au Caire, en Égypte. Bonjour.
Bonjour.
Naïma Bourras, vous avez étudié au plus près l'engagement des femmes après le soulèvement de 2011 contre le président Hosni Moubarak en Égypte. Quelles ont été les différentes formes de cet engagement féminin ?
Alors, les femmes furent très mobilisées et très présentes sur le terrain de la contestation après les soulèvements de 2011. Alors, cet engagement féminin a pris plusieurs formes. artistique, associatif. On a notamment vu des groupes qui furent créés contre le harcèlement des femmes dans les lieux publics. Dans le champ politique également, on a eu en Égypte un nombre de candidates record et un nombre de femmes qui sont allées voter aux législatives post-2011-2012 record également. Concernant l'engagement politique, et ici je pense que les femmes islamistes se sont bien distinguées car elles étaient, je pense, pour la première fois mises sous les projecteurs, aussi bien les femmes qui appartenaient à des mouvements salafistes. Et à l'époque, trois partis furent créés en 2011. Alors le parti Al-Nour, peut-être sur lequel nous allons revenir, le parti Al-Asala et le parti Al-Bina wa Tanmiya. Donc les femmes de ces partis salafistes étaient mises sous le projecteur, mais également les sœurs musulmanes qui étaient très actives durant la période électorale de 2011-2012. Plusieurs d'entre elles, d'ailleurs, occupèrent des sièges à l'Assemblée du Peuple, qui fut dissous en quelques mois. Donc en 2011 contre Moubarak et en 2013 du côté des pro-Morsi et de ceux qui dénonçaient l'éviction du président Morsi, les femmes islamiques et notamment les sœurs musulmanes furent très exposées, comme peut-être elles ne l'ont jamais été. Hein. Et aujourd'hui les sœurs musulmanes en paient le prix puisque je ne travaille pas sur la question, mais selon certains chercheurs qui travaillent sur la question, les sœurs musulmanes subissent une répression qui serait pire que ce qu'elles ont pu connaître sous Nasser. On se souvient du personnage important qui était Zainab al-Razali, donc qui a fondé l'association des sœurs musulmanes dans les années 30, je crois en 37 si je me souviens bien, et elle avait joué un rôle clé sous la répression de Nasser dans les années 60. Donc au pic de la répression, elle organisait des meetings clandestins chez elle, puis elle s'est arrêtée en 65 et torturée. C'est ce qu'elle racontera d'ailleurs dans son ouvrage « Des jours de ma vie ». Donc Razali était un personnage intéressant car bien que dans ses écrits, dans le magazine des frères musulmans Al-Dawa, elle écrivait dans la section « Femmes et enfants ». Donc dans ce magazine, elle décrivait les femmes qu'elle mettait dans des rôles bien spécifiques de mère et d'épouse. Au final, elle-même, elle faisait une certaine résistance aux formes classiques de la domesticité, puisqu'elle voyait le fait de ne pas avoir d'enfant elle-même comme une bénédiction. Elle a divorcé de son premier mari qui n'acceptait pas ses activités politiques. Donc pour certains, Zainab al-Razali serait la mère du féminisme islamique.
Il y a donc un féminisme islamique en Égypte, il y a peut-être aussi un féminisme laïque, ça existe comme dans d'autres pays par exemple l'Iran,
oui,
le Maroc ou la Turquie.
Bien sûr, l'Égypte a une longue tradition de féminisme laïque, il y a Houda Shaharawi qui dans les années 20 était très connue. On dit qu'un des premiers féminismes dans le monde est le féminisme égyptien, et c'est un féminisme laïque qui ne veut pas dire qu'il n'était pas imprégné de religion, mais... un féminisme laïque dans le sens où il ne se distingue pas du religieux. Donc pendant les révolutions, ce féminisme laïque, bien sûr, a perduré entre les années 20 jusqu'à la révolution. Et ce qui était intéressant à voir, c'était la manière dont pouvaient travailler ensemble les féministes laïques et les féministes islamiques. Bien sûr qu'on distingue des femmes engagées dans les mouvements politiques religieux, comme les sœurs musulmanes, qui sont deux choses très différentes. Donc les féministes islamiques, qu'est-ce que c'est ? C'est des femmes qui vont défendre en fait leurs droits en s'appuyant sur des textes religieux, qui vont faire de la réinterprétation des textes religieux. Par exemple, une des très célèbres féministes islamiques en Égypte, qui est Umayma Abou Bakr, a créé avec les féministes laïques égyptiennes une association qui est assez connue qui s'appelle The Women and Memory Forum, qui est une association et ils ont un site en ligne qui est très intéressant et on voit des travaux qui sont menés par les féministes islamiques et les féministes laïques. Donc les deux existent et les deux travaillent ensemble.
Donc la religion ne serait pas un frein à l'engagement politique ou social des femmes en Égypte ?
Non, la religion n'est pas du tout un frein, surtout que le religieux est présent partout en Égypte. Donc non, on peut pas dire que c'est un frein. On peut être féministe et être très pratiquant, par exemple. Le religieux ne représente pas un frein, et que ce soit dans les milieux coptes ou musulmans.
Alors, vous avez particulièrement étudié justement l'engagement de femmes dans un parti dont nous avons parlé il y a un instant, le parti Al-Nour, c'est-à-dire le parti de la lumière. Or, il s'agit d'un parti salafiste, particulièrement rigoriste. Qu'avez-vous constaté sur cet engagement féminin ?
Alors, le parti Nour, qui est le parti politique du mouvement de la Dawa Salafia, émerge en 2011, comme on l'a dit tout à l'heure, suite aux événements révolutionnaires, mais ce n'est pas, je pense, le mouvement salafiste le plus rigoriste, en tout cas dans sa pratique, et notamment lorsqu'on observe par exemple, ce qui se fait du côté des Maître Ali en Égypte. Alors, ce qui est intéressant à observer, en revanche, avec les membres de la Dawa Salafia, c'est qu'ils ont toujours fait preuve, en fait, d'une adaptation de leur discours religieux en fonction du contexte social et politique, notamment en ce qui concerne les femmes. Donc, c'est un mouvement qui émerge dans les années 70. Il est créé par des étudiants en médecine, qui n'avaient pas le bagage religieux azari, qui ne sortaient pas de la célèbre université religieuse de Al-Azhar, comme Mohamed Al-Fekki, qui a créé Ansar al-Sunnah al-Muhammadiyya en 26, ou encore Hassan al-Banna, qui a créé la confrérie des frères musulmans en 28. Alors, les fondateurs du mouvement de la Da'wa ont été formés dans les écoles religieuses privées, dans les institutions religieuses qui ne sont pas officielles, qui ne sont pas celles créées par le régime. Donc, lorsque ce mouvement émerge dans les années 70, on est en pleine sahwa islamia, c'est-à-dire le renouveau islamique, et la parole religieuse se libère à ce moment-là. Après des années de répression, de contrôle force Nasser, on est dans une Égypte où les femmes ont accès à l'éducation et sont nombreuses à être présentes dans les universités. Donc ici, le discours de ce mouvement de la Da'wa salafia va se démarquer du discours salafiste traditionnel en promouvant notamment l'éducation des filles. Ils justifiaient leur position par le fait qu'une femme éduquée pourra à son tour procurer à ses enfants une bonne éducation. On est donc aussi à une époque, dans les années 70 et 80, où les femmes investissent fortement le terrain du prêche et le terrain de l'apprentissage religieux. Et là-dessus, je vous redirige vers l'ouvrage d'Hélène McLarney, qui a écrit sur la question. Donc, le mouvement de la Da'wa Salafia a adapté son discours religieux en fonction du contexte social, politique et religieux dans les années 70. Et c'est ce qu'il refait en 2011. Donc en 2011, la Da'wa Salafia crée un parti politique, qui sera donc le parti Nour, et elle le crée pas par conviction politique, je pense, mais pour ne pas laisser aux frères musulmans tout le contrôle du politique, car cela risquait d'avoir un impact pour eux sur le terrain du religieux. Et donc, ils s'adaptent, encore une fois, en respectant le quota de femmes exigées aux élections parlementaires. Ce qui va être intéressant à observer, c'est que les chefs de la Da'wa Salafia vont appeler les femmes à se mobiliser pour les rejoindre dans leur parti politique. Et là, en 2011 et 2012, plusieurs témoignages montrent que les femmes étaient actives au sein du parti Al-Nour, elles distribuaient des tracts dans la rue, donc elles occupaient les espaces publics. Et c'était dans les espaces publics, à cette époque, en 2011 en tout cas, qu'on se politisait. Donc les femmes de la Da'wa étaient donc visibles et participaient de manière active aux campagnes électorales. Leur engagement dans les manifestations révolutionnaires de 2011, puis dans le processus révolutionnaire, les a sorties du confinement dans lequel elles étaient jusqu'à maintenant. Et donc voilà, donc jusqu'à maintenant, elles restaient plutôt dans la sphère du privé et dans le champ du religieux. Donc le parti a créé une section femmes du parti qui est dirigée par Hanana Alam, encore jusqu'à aujourd'hui, et cette femme va jouer un rôle important puisque sa mission sera de recruter des femmes au sein du parti et de convaincre les femmes de se présenter sur les listes électorales. Et d'autre part, elle va aussi tenir des discours en s'adressant aux femmes pour les inciter à voter pour le parti. Donc elle va participer à construire un électorat féminin salafiste, et c'est ce que je disais dans un article que j'ai écrit sur les femmes du parti Nul, c'est justement que le contexte révolutionnaire et les nouvelles dispositions légales en matière électorale, donc le système de quotas, a entraîné un empowerment de ces femmes salafistes et a élargi leur capacité d'action. Alors, non seulement leur rôle au sein du parti était reconnu, mais leurs compétences étaient sollicitées pour construire un électorat féminin salafiste décisif pour la nouvelle stratégie de la Da'wa. Donc, des rôles nouveaux pour ces femmes, mais qui s'inscrivent quand même dans des normes religieuses strictes. On ne montre pas, par exemple, le visage des femmes pendant les élections. On a les listes des candidats et à côté du nom des femmes, la Da'wa Salafia ou le Parti Nour avait tendance à mettre une rose à la place du visage des femmes, ce qui avait fait notamment couler de l'encre dans les médias égyptiens. Donc, sans vouloir postuler que le salafisme serait un moteur de l'émancipation féminine, ce qu'on voulait montrer, en tout cas dans cet article, c'était que la logique partisane a conduit à élargir le champ d'intervention des femmes salafistes et à leur donner des formes de légitimité et un statut d'acteur tout à fait inédit.
Merci Naïma Bourras, doctorante à l'Université du Havre. Je rappelle que vous êtes membre associé du CEDEJ, le Centre d'études et de documentation économique, juridique et sociale au Caire en Égypte.
Merci à vous.
Orient Hebdo est une émission de RFI réalisée par Mathias Golshani. Vous pouvez la podcaster sur notre application Pure Radio ou la réécouter soit sur le site de la radio www.rfi.fr rubrique émission, soit sur la page Facebook de l'émission. Demain dimanche, nous réécouterons l'un des débats enregistrés aux rencontres Averroès de Marseille en novembre dernier, envisageant la question de la liberté face aux menaces de la terreur, des régimes autoritaires ou des difficultés économiques au Moyen-Orient. Mais tout de suite, un nouveau journal.